Ok, sujet traité ce soir. Jackie.
Moi je veux savoir pourquoi. Non, mais là, c'est une histoire.
Ouais, faut me rappeler de quoi. Ah, c'est très très beau. Ah, quelle belle histoire. Aïe, 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 Alors. Ce chiour dédié au Hilou Neshama, l'élévation de l'âme de David Ben Rachel, Elbaz et Zechrono Livracha, des mémoires bénies. C'est une histoire qui se développe en trois volets, en trois histoires. La première concerne Baba Salé, et la voici. Alors, je raconte leur histoire de hier, de nouveau, pour que. On l'a raconté hier dans le cours, on va la répéter ici rapidement. Comme quoi, le Chavruta, de mon Chavruta, quand on était jeune, il avait une voiture à Netivot, et de temps en temps, Baba Salé lui demandait de le prendre en voiture. Il a demandé de le prendre en voiture, ils sont allés de Netivot à Ashdod. Baba Salé voulait voir son fils Rabbi Meir. Et le Chavruta revient, il raconte à mon Chavruta que il s'est mis derrière la voiture, Baba Salé était à sa place, Rabbi Meir est venu à la place du conducteur, ils se sont fait la bise pendant une demi-heure, il n'y a pas eu un seul mot. De temps en temps, un petit grognement, après de nouveau la bise, tac tac, hop, ils repartent pour Netivot. De là, on a appris qu'il pouvait y avoir des discussions secrètes. Pourquoi? Le mal attrape nos paroles. Il entend ça et il réagit. C'est connu que chaque fois qu'on fait une mitzvah, si on dit qu'on fait la mitzvah, alors il y a beaucoup de chances qu'elle ne se fera pas. Parce que tout de suite, on réveille maintenant des forces contre. C'est marqué. Pourquoi est-ce que les premières tables de la loi, elles ont été brisées? Parce qu'elles ont été données en public. Donc, ça fait du bruit et ça crée un antagonisme. Il y a le bien, il y a le mal. Le mal, il est le grand boss dans ce monde. Et quand il voit une petite goutte de bien qui se réveille, il attaque. Alors, il ne faut pas mettre... Une campagne de pub, on va faire une mitzvah pleine de lumière contre le Yetzirah. Il voit ça, ça l'énerve. Donc, quand on fait une mitzvah, on n'en parle pas. Et là aussi, quand deux grands tzaddikim me parlent de choses, il faut pas que ça s'entende. Alors il faut en penser. La pensée, le Yetzirah n'a pas de. N'a pas. Pardon ? Ouais, mais ça réveille quand même. Ça a quand même réveillé les forces négatives. Quand on prie, pourquoi est-ce qu'on prie la Amida en chuchotant? Parce que la Amida se trouve à un niveau très haut spirituel, mais dans lequel il y a encore une emprise des forces du mal. On appelle ça la Bina. Donc on fait la Amida à voix basse. D'après la Kabbalah, il ne faut même pas s'entendre. D'après le Pshat, il faut s'entendre. Chuchoter, il faut s'entendre, chuchoter. D'après la Kabbalah, surtout pas. Comment on fait comme on veut. Il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça. La chazara de la Amida, la prière de répétition de la Amida, on la fait à voix haute. Pourquoi? Parce qu'on monte un degré plus haut dans les mondes supérieurs qui s'appellent la Chochma, et là-bas, il n'y a plus d'emprise des forces du mal. Ce qui est très important, messieurs, de bien écouter attentivement la chazara, la répétition de la Amida. C'est pas un truc comme ça pour passer le temps et faire des clins d'œil à quelqu'un et rigoler et réfléchir et rêver. D'accord? Non. C'est un niveau très haut qui nous permet d'accéder à la chorma, à la sagesse. Première histoire, donc Baba Salé avec son fils. Deuxième histoire, elle concerne le Admor de Lelov. Le Admor de Lelov, c'était un monsieur extrêmement saint. C'était un bon ami de Baba Salé, qui j'imagine se rencontrait dans les mondes supérieurs. C'était tout à fait l'opposé. Baba Salé vient du Maroc, Admor de Lelov, il vient de Lelov, d'accord, un patelin en Pologne ou en Ukraine, je ne sais pas où, un grand chassid avec une grande péote, une grande barbe, habillé en chassid, Streimel, tout ça. Mais c'est un homme extrêmement saint. Hein? Extrêmement saint. Alors je vais donner quelques petits exemples. Lui, à la fin de sa vie, il a fait, il a demandé de faire Atarat Nedarim, autoriser un vœu. Qu'elle veut, il a dit je souffre d'eczéma. Et l'eczéma, ça gratte terriblement. Quand j'étais jeune, J'ai fait un vœu que jamais je me gratterai. Car comment puis-je être devant Hachem et me gratter? Là que je suis très vieux et je commence à être malade, j'ai peur que peut-être par inadvertance, des moments où je suis presque inconscient, je peux me gratter, là je transgresse un vœu. Donc il a fait à Tarasin Darim, il a autorisé ce vœu. Un homme qui, quand il est jeune, fait un vœu de ne pas se gratter parce qu'il dit comment je peux me gratter alors que je suis en face d'Hachem. Ça veut dire, pardon ?
C'est quelque chose de simple, c'est le
Khumra. C'est une super Khumra, c'est quelqu'un qui a la conscience, c'est pas un jeu, qui a la conscience qu'il est en face d'Hachem. Comment je peux me gratter ? Tu imagines le niveau de conscience d'Hachem. Le Mishnah Sharim, c'est l'avant-dernier degré du Mishnah Sharim, ça s'appelle Yiratret. Yiratret, la peur du péché. Ils disent c'est une clause dans Yiratret, dans la peur de la grandeur d'Hachem. La crainte, quelqu'un il se rend compte de la grandeur d'Hachem, Hachem est là, le roi des rois, là il me voit, présent ici. C'est comme une tension terrible. Un homme qui a la conscience de cela, ouais, c'est une très très grande sainteté. Il a jeûné 50 ans de suite. Le jour de sa mort, c'est pas pour nous, hein, je vous parle de degré de... Le jour de sa mort, il pesait 24 degrés. 25, 24. 24 kilos. 24 kilos. Et comment il est mort? On a raconté qu'il était sur son lit comme ça. Tout coup, il est venu tout rouge. Donc il devait voir la shrina qui vient. On appelle ça mort en baiser. Il y en a que c'est l'ange de la mort. L'ange de la mort qui vient les prendre. C'est terrible. C'est pris dans le Zohar que tous les jours, le Yetzirah vient déguisé comme une prostituée. Elle vient, elle t'embrasse. Et t'es un gentil garçon, t'es bien, viens. Elle l'embrasse, d'accord. C'est agréable, le Yetzirah. C'est agréable. Reste un peu dans le lit, prie avec Havana, rigoler, une petite partie, on boit, on sort. C'est sympa, c'est comme une prostituée qui t'embrasse sous ses baisers. Et le jour où on va mourir, elle vient aussi. Ah, c'est elle, tu vois, que c'est un monstre énorme avec une épée terrible, avec des milliers d'yeux, des yeux, des yeux. Tous les regards interdits que tu as fait dans ce monde-là, tout ce que tu as regardé, tout ce que tu as envie. Tu dis, mais je comprends pas. Eh oui, c'est moi, mon cher ami. Et là, elle voit ça, elle a une peur terrible. L'ange de la mort, il prend son épée, il met une goutte d'amertume au bout, une goutte de poison, d'accord ? Et il vient pour tuer la personne. La personne voit l'âme, elle voit ça, elle se cache. Une partie de, je crois qu'elle se retire des pieds, elle se met ici comme ça, elle a peur. On a beaucoup de témoignages de gens qui agonisaient, qui avec leurs pieds faisaient comme ça. Non, parle ici. Ils voyaient un truc. C'est clair, avant de mourir, on voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Ils voient l'ange de la mort. Ça fait très peur. Et il lui met une goutte, et comme ça il prend son âme. Terrible! Mais les grands tzadikim, ils meurent en union avec Hachem. Baiser. Ce n'est pas la prostituée qui vient l'embrasser, c'est Hachem qui vient l'embrasser. Et en baiser d'amour, l'âme elle est happée par Hachem. Alors il est devenu tout rouge comme ça, il a eu une larme, deux larmes de chaque œil, enfin une larme de chaque œil qui a coulé. Il a mis sa main comme ça, tac. Comme ça, il est mort. C'est des grands hommes. Alors, ça, c'était juste pour l'introduction qui était le rabbi de Lelov. La deuxième histoire, la voici. Je la tiens du Rav Yitzhak David Grossman. C'est un monsieur, un grand tzaddik qui fait beaucoup pour Am Israël, qui a des institutions à Migdal HaEmek. Migdal HaEmek, c'est dans l'ordre du pays. Je fais une petite parenthèse d'histoire dans l'histoire, d'accord, sur le Rav Yitzhak David Grossman. Je ferai un peu de pub. C'est un monsieur qui s'est marié. Et son rebbe, c'était son rabbi, d'accord, c'était l'admor de l'élov. Lui a dit, toi tu vas être installé dans le nord, dans le Galil, il n'y a rien là-bas, c'est le désert total. Tu vas à Migdal HaEmek, tu t'installes là-bas. Et ils ont pris 10 avrechim, tout jeunes, ils sont allés s'installer là-bas. Après une semaine, tout le monde est parti déjà. Il est resté seul avec sa femme. Et il dit, qu'est-ce que je fais? Il voit que ça ne marchait pas. Il s'est renseigné, il a compris. Bon, il a vu, il y avait des bandes de jeunes comme ça, des voyous, tout ça. Il y avait un, c'était un proxénète. D'accord? Il était le chef de la mafia. Et si lui, j'arrive à faire tchouva, tout le monde fera tchouva. Bon, il vient, il tape à la porte, toc, 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 toc. Il avait 20 ans, il était tout jeune. Comme ça, freluquet, tout maigrichon. Bon, qu'est-ce que tu veux ? Je veux le parler, peut-être pour te parler un peu de Torah, pour que tu fasses tchouva. Il ferme la porte. Bon, toc, 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 toc. Qu'est-ce que tu veux ? Je te dis, le mafiosi le prend comme ça, tac, il l'envoie comme ça, et il roule dans la poussière, et ferme la porte. Arrête de me déranger. Alors une troisième fois, c'est un beau Marocain. Ils ont quelque chose dans le cœur. Allez, bon, allez, rentre. Et quand il parle, etc. Il dit, écoute, moi je veux bien, mais il faut bien que je gagne ma vie, qu'est-ce que je vais faire ? T'as pas un truc, qu'est-ce que tu aurais voulu ? Un truc caché, un boulot caché ? Ben, si moi j'avais de l'argent, je me serais acheté un minibus, et j'aurais mis des gens comme ça, les enfants à l'école, j'aurais fait des voyages, qu'on appelle ça, du transport. À l'époque, c'était il y a 50 ans, d'accord, c'était 40 ans. Ouais, quelqu'un avec un petit minibus, c'était quelqu'un en Israël. Combien ça coûte ? Il dit le prix. Et je me réfléchis jusqu'à ce soir. Et alors sa femme, elle dit, voilà, écoute, on a l'argent qu'on a reçu maintenant pour notre mariage. Avec ça, on comptait acheter un petit appartement de 2 pièces à Jérusalem. On va donner à ce type-là. Elle a accepté. Et tout l'argent du mariage, on est à ce type-là pour qu'il arrête son métier. Il a fait tchouva. Aujourd'hui, l'institution Miguel, ils ont 600, 700 élèves, un truc énorme, énorme, énorme. Rav Grossman. Rav Grossman, donc, était élève de Admor de Lelov. À la base, Rav Grossman était un chassid de Karlin. Mais lui était très attiré par Lelov. Et un soir du Seder, il est allé passer le soir du Seder à Bnei Brak avec l'Admor de Lelov. L'Admor de Lelov habitait Bnei Brak. L'Admor de Lelov ne recevait personne à son Seder qui n'était pas marié, que des gens mariés. Pour plus de Kdoucha, un type qui n'est pas marié, il a dépensé, il a des trucs, c'est pas cachère. Mais il a vu le Rav Grossman rentrer comme ça, il n'a rien dit. Bon, Rav Grossman s'est installé, tout ça. Et commence la guerre de Pessah. Et Rav Grossman nous raconte qu'il fait la guerre de Pessah très rapidement, il a lu comme ça, du coup il est pris comme un feu, comme une bataille énorme avec des forces grandioses, et il se lève comme ça, et dit la Gada, et il se tourne, il se roule sur le mur. Fait toute la salle en roulant sur le mur comme ça, en récitant par cœur la Gada Pessah, tout le mur comme ça. À la fin, il s'assied sur sa chaise comme ça, complètement exténué. Ils ont fini la Gada. Il voit Rav Grossman, lui dit, Ichi David. Ichi David, c'est en yiddish, Israq David. Ichi David. Vous êtes de Karlin, vous. Pourquoi ton père, alors, il fait la Gada avec les intentions kabbalistiques de Chabad, de Lubavitch? Je sais pas. C'est vrai, on est de Karlin, je sais pas. Bon, le soir venu, il quitte Bnei Brak, il vient à la maison. Il dit, papa, dis-moi, t'as fait dans quelle agada hier? Son père lui dit, nous on est de Karlin, d'habitude je fais Karlin avec les intentions kabbalistiques de Karlin, mais quelqu'un m'a ouvert une très belle agada de Chabad. Alors, j'ai fait avec les intentions kabbalistiques de Chabad hier soir. C'est-à-dire que le Rav de Lelov, il a Bnei Brak. Il voit comment un juif à Jérusalem, les intentions kabbalistiques qu'il a quand il fait le sort du Seder. Comprenez le niveau. C'est pas qu'on parle en télépathie, c'est qu'on est. C'est même pas. C'est... Troisième histoire, la rencontre entre Baba Salé et le Rav Grossman. Le Rav Eliyahu Alfassi, c'était le chamash de Baba Salé, celui qui s'occupait de lui. Et un dimanche, il arrive un peu en retard le matin, il arrive. Baba Salé lui dit, tu étais où ? Je reviens de Méron. Quoi, tu étais Shabbat à Méron ? Ouais. Méron, c'est la tombe de Rabbi Shimon bar Yochai. Qui est là-bas ? Il dit, il y a le mort de l'élève. La mort de l'élève est à Méron. Viens, on y va. Pourquoi viens, on y va ? Lui, il revient maintenant, à l'époque, c'était 7 heures de route, d'accord ? De Méron à Netivot, c'est 7 heures de route minimum, comme dans une voiture caotante, dans une route, pas une route, d'accord ? Il dit, on peut pas. Voilà. On part, on dit, là-bas, on y va. Baba Salé, c'était un homme très très vieux déjà. Mais il était une décision, c'est. Bon. Ils partent. Ils arrivent à Méron. Quand on rentre à Méron, sur la gauche, il y a une petite chambre. Il y a la police là-bas. Ils ont À l'époque, ils avaient le bureau n'était pas là-bas, et il y avait une petite chambre. Ils ont mis là-bas le Admandelov. L'Admandelov était un homme très très malade. Il était sur un lit. J'ai eu l'occasion de le voir. Une fois, j'étais rentré sur un lit. Il n'y avait que sa tête comme ça qu'il y passait. Il recevait des gens, des brachot, des méchants, mais il bougeait à peine. Et qui était avec l'Admandelov? Son chamash, l'Admandelov, et le Rav Grossman. Qui m'a raconté cette histoire que je vous raconte maintenant? Qui m'a raconté deux fois? Je demandais une fois, et on se revu un an plus tard, je me racontais moi donc l'histoire dans tous les détails. Comme ça, je bien précisé tous les détails comme il me l'a raconté. Alors, ça allait. Il apprend que l'Admor est là, il ne rentre même pas à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, il va directement voir le Admor. Et il rentre, et là, pendant 10 minutes, pas un mot. Les deux se regardent sans dire un mot. J'ai demandé la deuxième fois qu'il m'a raconté Rabbi Grossman, quel regard ils avaient? Il m'a dit Malek Aragouim, plein d'amour l'un pour l'autre. Pendant 10 minutes comme ça, les deux se regardent en disant rien. Baba Salé sort, Rabbi Grossman le prend par le bras comme ça, et il accompagne Baba Salé qui va à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il arrive du côté des femmes, où il n'y avait pas de femmes bien sûr, il se met à 1 mètre de la tombe sans la toucher, on amène une chaise, il se met sur sa canne comme ça pendant une petite demi-heure, comme ça. Après, il se lève, Rabbi Grossman le prend toujours comme ça, et sort le shamash du Rabbi Grossman, sort, vient vers eux. Alors en yiddish, le Rabbi Grossman demande au shamash du Admor de l'Elov, Vos zox di Rebbe, qu'est-ce qu'il a dit le Rebbe sur la rencontre entre les deux? Alors le shamash a dit, le Rebbe il a dit que Baba Salé et moi, on s'est concertés les deux, on a décidé que ce que nos ennemis veulent nous faire, ils vont se faire à eux-mêmes entre eux. Bien messieurs, quelques jours après, a commencé la guerre Irak-Iran. Une guerre qui a duré 7 ans, qui a fait des centaines, des millions de morts, des millions de morts. Quand moi j'étais à l'armée, je me souviens qu'un général venu nous voir, il nous a dit, vous ne pouvez pas vous rendre compte quelle aubaine c'est pour nous, que maintenant ces deux superpuissances, l'Irak et l'Iran, c'était des superpuissances, sont en guerre les deux, sont nos pires ennemis, sont les plus dangereux, ils sont très très forts, et bien au Hachem, ils sont en train de s'escapter en petits morceaux. Et après 7 ans de guerre, ils sont restés de la même frontière, au même endroit, simplement il y avait des millions de morts, plus d'armes, complètement ratatinés. Deux hommes, Améron avec la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui décident de cela entre eux. Regardez le résultat. Voilà. Belle histoire.
Super.
Super.
Une autre?
Non. Sur la mort de Lelov.
C'est-à-dire quoi, qu'on arrive à un certain niveau, on peut parler en télépathie, on peut traverser les murs, on peut voler.
Ouais, sûrement.
Ah, j'ai entendu de votre âme, il y avait une horreur à Kodesh.
Rabat Sion. Et comment? Baba Salé, son fils était plus grand que lui, comme ça il a dit lui-même, Rabbi Meir. Il était très très inconnu, très caché. Pour venir au niveau en Torah qu'il avait. Bon, c'est un homme qui voyait tout lui aussi. Il devait être le Mashiach. Il devait être le Mashiach, Rabbi Meir, le fils de Baba Salé. Et j'ai demandé ça à Ben Sion, il n'a pas voulu me dire à la fin, je lui ai extorqué comme ça, il dit, ouais, c'est vrai, il devait être Mashiach. Et on m'a dit après que dans la famille Abou Hatzera, ils ont une Kabbalah, ils ont une tradition, comme quoi Rabbi Meir, Meir, c'est racheté, c'est l'initiale de Ruach Apenu Meshach Hashem. Ruach Apenu, le souffle de notre nez, mais le Mashiach de Dieu. Le Rabbi Meir m'a dit qu'il connaissait toute la Torah. Je crois que Ramson m'a dit qu'il connaissait pas un chacham, un sage, qu'il connaissait autant de Torah que Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il a dit sur Rabbi Ben Sion aussi, comment il a eu la première rencontre entre Rabbi Ben Sion et Rabbi Meir. Rabbi Ben Sion est venu le voir, un étivote. Il est là que comme tout le monde. Et il est rentré, ils ont parlé un peu Torah, tout ça. Et où tu étudies? J'étudie à Porat Yosef. Comment tu t'appelles? Ben Sion. Bon, ok, bien sûr, shalom. Il a béni, il est parti. Quelques jours plus tard, des élèves de Porat Yosef sont venus. Lui, c'est le Rav de Porat Yosef. D'accord? Quelques élèves sont venus et ils leur ont dit, il y a chez vous un avrai, il s'appelle Ben Sion, comme ça. Et je parlais avec lui, il est bien. Ben Sion. J'avais dit, on ne connaît pas. Comment il s'appelle? Ben Sion. Vous connaissez un avrai qui s'appelle Ben Sion? On ne connaît pas. Non, il n'y en a pas. Et il m'a parlé des histoires. Porat Yosef, Ben Sion. Je dis, ah, on parle du Rav. C'est presque Rosh Hashiva, il n'est pas Rosh Hashiva, il est prêt bientôt, le Rav Ben Sion, Baba Shaoul. Baba Meir a tellement apprécié la anava, l'humilité dira, mais c'est qui dit, ouais, moi j'enseigne, hein, je suis rare, non, Bension, comment Bension, j'étudie, ouais, pourquoi tu sais, voilà. Anbetan, humble, plus grande des qualités. Il a dit, Baba Meir, il a dit, tous les grands de ce monde ont traversé le seuil de ma porte, aucun a égalé Hacham Bension, le Rav Bension. Deux grands énormes. Quand Baba Meir est décédé, qui est venu à l'oraison funèbre? Le Rav Vosner. Rav Vosner et Baba Meir, c'est pas antipode, c'est deux planètes. Baba Meir, Ivan Babouche, d'accord, Angela Ba, Rav Vosner, c'est Bnei Brak, dans toute sa splendeur, ça n'a rien à voir, quoi, c'est des millions de milliards de kilomètres. Le Rav Vosner vient faire l'oraison funèbre. Personne n'a compris. Il a dit, après la guerre, il y a eu beaucoup de cas de Agunot, des femmes dont le mari a disparu, et les rabbins font tout pour essayer d'autoriser ces femmes à se remarier. Parce que si on n'a pas témoignage comme quoi le corps, on a vu le corps mort du mari, alors cette femme ne peut pas se remarier. Peut-être que le mari n'est pas mort, il revient. Coucou, je suis là, et quoi, elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle adultère, les enfants sont mamzerim, c'est un cas très très difficile. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail, et Rav Vosner a dit que je ne m'en sortais pas, j'avais trop de dossiers, je ne pouvais pas, et les femmes m'attendaient. Je me suis renseigné qui pouvait m'aider, personne ne pouvait m'aider. Quelqu'un m'a dit, va voir Baba Meir. Il refusera, insiste. Je vois Baba Meir, je dis, il raconte. Il m'a dit, vous trompez, moi je fais Rokhle Israël le matin, un peu Chumash Rashi, voilà, c'est tout. C'est pas moi. Hein. Il a insisté, À la fin, Baba Meir va dire, j'accepte, mais j'ai une condition. Vous dévoilez absolument jamais à personne que je vous ai aidé pour cela. Quand le jour de ma mort, vous pouvez le dévoiler, mais pas avant. Maintenant qu'il est mort, je viens, je dévoile. Sachez, c'était un géant en Torah. Il connaissait des responsables du Rashba par cœur. Vous voyez les responsables du Rashba? C'est ici. 4 volumes, 17. Plus de 1000 réponses du Rashba. Il connaissait par cœur des pages entières du Ran sur la Gemara. On ne parle pas de la Gemara, ça c'est Pshita, d'accord? Par cœur. Énorme en Torah, énorme en Torah. Comment on arrive à ces degrés-là, Baba Saleh, Baba Meir? Baba Saleh, il a fait une introduction à un livre de son grand-père, Rabbi Yaakov Abouchatzera. Introduction. Avec des tas de citations qu'on ne sait pas d'où ça vient. Ils ont demandé au Rav Chaim Kanievski, Rav Kanievski c'est un des hommes qui connaît le plus de Torah au monde, d'accord, de donner les références d'où viennent ces citations. Je crois qu'il y a 300-400, il a dit, il y a 300-400 références de livres différents, rien que l'introduction. Et dit beaucoup de citations que je ne sais pas d'où il a sorti ça. C'est des géants en Torah. Alors nous, on les connaît pour les miracles qu'ils faisaient, les machins, les trucs, mais c'est Torah, 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 en sainteté. Prière et Torah, Torah et prière et sainteté. Voilà. Ça grandit. Ken.
On ne peut pas se reposer sur des gens en Torah comme ça?
C'est certain qu'on se repose sur eux. Sans eux, on n'aurait pas droit à la vie. Mais... Tu vas rêver au Lamaba, tu ne vas pas te reposer sur eux. C'est toi avec ton âme, qu'est-ce que tu aurais dû faire? On devrait venir en Gilgoul, tant qu'on n'a pas étudié tout ce qu'on doit étudier, tout ce que notre âme doit étudier, on revient en Gilgoul pour le faire. Ken.
On dit que dans la génération, à cause de la Yerida à droite, on n'a plus la capacité d'atteindre un niveau.
C'est vrai.
Les tzadikim, ils commencent à. Un jour, ils vont partir, donc ils sont.
Ma chère Harry, mon cher ami.
Oui, amen, je le souhaite, mais je veux dire, comment il s'appelle, Rabbi, celui qui s'est fait assassiner là.
Oui, Baba Lazare.
Voilà, Hachem, il va être en quelque sorte, il est obligé de trouver quelqu'un qui a fait le même niveau que lui, non?
C'est marqué qu'Hachem a vu qu'il y avait plus de tzadikim durant l'histoire, ils avaient éparpillé durant toute l'histoire. Donc il y en aura jusqu'à la fin, et on est à la fin. Terminé, voilà, bon, Hachem, c'est la fin. Rabbi Sion, je lui ai demandé une fois, on était en 90 à table avec lui à Pessah. Mes parents, moi, ma femme, le code est revenu, est-ce qu'on verra nous ici là à table, est-ce qu'on verra Mashiach? Il m'a dit, vous, oui, moi, je ne sais pas. Et lui dit, le Rabbi Sion en 98, et nous, Baruch HaShem, on est encore vivants. Mon père a 77 ans, bien inara. Donc, combien de temps il va vivre? Jusqu'à 120 ans. C'est-à-dire que vous et moi, on verra Mashiach, c'est évident. Baruch HaShem, encore cette année.
Comme vous avez dit, de changer le roi Rabbi Lachim.
C'est vrai. Si jamais il s'avère que c'est faux, alors c'est faux. Et c'est pas pour cela que. Mais Zrat Hachem, ça sera vrai. Ken.
Vous avez dit, une fois qu'il y a une question, comme quoi à la fin, il n'y aurait plus de Torah, de Mitzvot, les amis seront trop éloignés de. Non.
c'est marqué qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de choses mauvaises. Oui, effectivement. Et on a eu cette période-là. On a eu cette période où il n'y aura presque plus de Torah. C'était avant la Shoah.
Il y a quand même eu des tzadikim.
Il y avait très peu, très peu. Il y avait, il y a toujours eu. Et il y en aura toujours. Mais le niveau de Torah était lamentable. Avant la Shoah, après la Shoah. Très, très, très bas. Pardon ? Elle est... Il y a eu, quand on dit c'est impossible, s'il n'y a pas de Torah, le monde s'écroule tout de suite. Le monde ne peut pas rester. Si c'était mon alliance d'études Torah jour et nuit, les lois du ciel et de la terre, j'aurais pas mis. Ça veut dire que s'il n'y a pas la Torah, s'il y a un milliardième de seconde dans le monde sans Torah, le monde s'écroule tout de suite. Parce que c'est le flux de vie qu'on amène sur terre. Mais quand on dit qu'on a Gemara, elle dit qu'il n'y aura pas de Torah, hein, très peu de Torah, ça signifie que, je ne sais pas, c'est ma Chochmat. Sofrim Tisrach, la sagesse des étudiants, elle sera dénigrée. Un temps, un Rav, un temps, un Tamit Racham, un étudiant de Shiva, c'était le top du peuple d'Israël. Aujourd'hui, c'est les nuls. D'accord ? On est dans ces configurations encore. Simplement, aujourd'hui, il y a un revirement de situation et le monde a Shoah de la fin des temps. Mais ce qu'il y a eu avant, tu prends avant, pendant, après la Shoah, n'a jamais aussi mal de presque de toute histoire. Jamais, jamais. Pardon ? Mais il y avait la Torah, il gardait des choses. Aucune femme n'a fréquenté il y a une seule femme qui a été violée par un Égyptien, et Pirsema Katou, l'écriture en a parlé, c'est la seule.
Il y
avait aussi, c'est juste, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Avant la Shoah, il y avait une assimilation terrible. Des millions, c'est pas sans exagération, des millions de juifs en deux générations ont quitté la Torah. Au moins 10 millions de juifs. 10 millions de juifs, des froum, qui quittent la Torah. Ken.
Oui, en soi, là, avant Mashiach, ce qui manque, c'est Yahonavi.
C'est marqué que Yahonavi, il viendra, pas en tant qu'être humain, en chair en os, il peut venir en tant qu'ange, comme il vient à une Brit Mila. Chez Brit Mila, Yahonavi, une partie de lui vient. J'ai vu quelque part, je ne sais plus où, qui viendra à l'état d'ange et va réveiller les gens. Nous tous sommes des gens qui ont été tapés d'habitude par la baguette magique de Yohanavi. Tu étais en train de manger ton McDonald's en France, donc je lui ai dit, mais pourquoi je vis, c'est quoi le judaïsme, tac, allez, je vais à cours. D'accord, qu'est-ce qui est passé? Yohanavi vient et tic. C'est marqué qu'à la fin des temps, Yohanavi viendra et fera faire tchouva au père. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères. Il ramènera le cœur des enfants à leurs pères, le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères. Il fera faire tchouva. Un père est froum, le gosse il a tout lâché, le gosse revient vers le père. Le père il est fraille, le gosse il est froum, il a fait tchouva, et il ramène le père. Ça c'est la fin des temps, on est en plein.
On ne dit pas qu'il va annoncer Mafia ?
Ça peut-être, c'est marqué le jour avant.
Un jour avant.
C'est pour ça que ma chère ne vient pas Shabbat. Ouais. C'est pour ça qu'il vient pas Shabbat. La Gemara dit ça dans Yeruvin page 44. Elle dit ma chère ne vient pas Shabbat. Pourquoi? Parce que s'il vient Shabbat, et on a vu, il vient vendredi. Et où vient vendredi, on est bien embêté. Ouais. Vendredi, on n'a pas le temps de recevoir Elia Onavi. On s'occupe d'aller au Migvé, faire le Rami, le machin, le truc. La Gemara dit ça. Quand ma chère vient, on devient tous prophètes. On est en contact avec Hachem. Dieu, il nous parle. Pas l'égoïme vous demander, c'est marqué Kaet Yamer l'Israël ou l'Yakov Ma Paal Kel. Viendra un jour, on demandera à Israël, à Yakov, qu'est-ce que Dieu fait? Le peuple d'Israël va voir Dieu et il va dire qu'est-ce qu'il fait? À qui il va dire? Qui va demander? Kaet Yamer, un jour on demandera au Bnei Israël, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Qui va demander? Les anges qui aujourd'hui voient Dieu, on sera tellement plus haut qu'eux, ils vont demander, hey, toi t'es branché, raconte-moi un peu plus, qu'est-ce que tu vois là-bas, raconte-moi un peu les grands secrets de Hachem. Toi et moi, les anges vont venir nous demander. Hein? Ici?
Mais les anges, on peut pas les voir ici, simplement.
Mais mon cher ami, quand il y a votre Mashiach revient, le Mashiach, on va se sanctifier beaucoup, on verra tout, c'est fini. On va discuter en télépathie, on va traverser les murs, hein? Bien sûr, on verra tout, c'est évident, on verra tout. Par ta chaîne. Celui qui s'est préparé, qui s'est sanctifié maintenant, etc. Messieurs, c'est la dernière ligne droite. Dernière ligne droite. Comment est-ce que tu peux vouloir voir Hachem et voir Mashiach. Et tu dis dans la prière, Betechezena enenu, que nos yeux voient ton retour à Sion, quand dans les yeux tu as des bonnes femmes.
Mais Rav, je veux dire quelque chose de sincère. Je vais te prendre la parole et qui vient de Mashiach. Parce qu'on a peur. C'est quoi la vie après Mashiach?
Ouais, tremble. Mashiach vient, mon cher ami, il ne va pas t'attendre. Alors on va l'attendre encore. Chaque génération, il y a d'autres qui disent je suis pas encore prêt. Ouais, pas encore prêt. Alors en attendant.
Après Mashiach, la vie c'est comment? Pour nous, quand on dit Mashiach, après on voit, voilà, on va revenir au Moyen Âge avec les.
Mais non. Pas Moyen Âge du tout. Il y aura un bonheur énorme. Il y aura une connaissance d'Hachem. Il y aura plus de mal. Il y aura que la bonté, que le bien. Mais il faut mériter pour ça, bien sûr.
Si on veut.
Bien sûr, bien sûr. On va se marier, on aura des enfants, on aura un pouvoir de notre âme très grand. On travaillera plus. Bien sûr. Bien sûr. C'est une des quatre conditions pour que ma chair soit là. Une des quatre conditions qui prouve que ma chair est ma chair, c'est qu'il doit construire le temple de Jérusalem. Et on ramène le sacrifice.
Et si après on dit qu'on va aller au Lama-Ba, alors on aura attendu toutes ces années le dernier temple pour en profiter un petit peu, quoi.
40 ans, c'est l'époque messianique. 40 ans. Après, on rentre en phase qui s'appelle résurrection des morts, qui va jusqu'à l'an 6000. À l'an 6000, zip, fini. Baruch Adonai, l'homme va